Cela fait donc 100 jours, un petit peu plus, hein, que François Bayrou est à l'hôtel de Matignon. 100 jours pour rien, Alain Duhamel ?
Je dirais qu'il est touché, mais pas coulé. Qu'il est affaibli, mais pas condamné. Bon, on sait très bien ce qui ne va pas. On lui reproche son immobilisme, on lui reproche sa maladresse, on lui reproche un gouvernement dans lequel des ministres s'invectivent, dans lequel d'autres ministres posent leurs conditions, multiplient les menaces, dans lesquels des dirigeants essentiels de la majorité, comme Édouard Philippe ou Laurent Wauquiez, critiquent ouvertement le Premier ministre. Lequel est impopulaire, particulièrement impopulaire. Bon, on ne peut pas dire que tout soit dans le meilleur des mondes. Bon, et inversement, la situation internationale est grave et les parlementaires, même lorsqu'ils s'invectivent, l'ont compris. Aucun parti n'a intérêt, sauf les insoumis. Mais en dehors des insoumis, aucun parti n'a intérêt à ce qu'il y ait des élections anticipées. Tous ont à y perdre, sans exception. Et François Bayrou fait des propositions, puisqu'il a envoyé une lettre vendredi au président des groupes parlementaires avec son programme pour le mois d'avril, pour répondre évidemment à l'attaque sur l'immobilisme. Bon, immobilisme dont il faut bien dire quand même que 90% vient non pas de la personnalité du Premier ministre, mais de l'absence de majorité et surtout de l'absence d'argent. Parce que le fond de l'affaire, c'est ça.
Il n'en est pas responsable.
Du coup. Il l'a trouvé en arrivant. Voilà. Et il n'empêche que c'est paralysant.
Oui. Mais je pense que les Français ne comprennent pas bien ce qui se passe. Parce que dans un premier temps, ils ont été assez complaisants. Les Français se sont dit, bon, François Bayrou est nommé, ça ne correspond pas au verdict des urnes, puisque ça aurait dû être un Premier ministre qui correspond à la majorité, au parti arrivé en tête, donc quelqu'un de gauche, donc il arrive après Barnier. Donc les gens étaient déjà assez secoués par toutes ces péripéties. Et donc François Bayrou, il avait des atouts entre les mains. C'est ça qui est étrange. Et là, comme dit Alain Duhamel, il y a à la fois aucune avancée sur le fond. Sur la forme, c'est assez calamiteux ce qui se passe au sein du gouvernement dans cette dysphonie gouvernementale. Et puis surtout, il rajoute du conflit au conflit. Vous voyez, moi je crois qu'aujourd'hui, une politique gouvernementale, ça devrait être une politique qui apaise et qui réconcilie. Et en rouvrant et en terminant le débat, par exemple sur les retraites, c'était une bonne initiative ce conclave. C'est une des rares initiatives positives, finalement. C'est-à-dire qu'il avait réussi à se maintenir.
Mais il n'est pas comme ça qu'il a réussi à faire passer le budget.
C'est comme ça qu'il a réussi à faire passer le budget. Et là, il arrête brutalement l'engagement qu'il avait pris par rapport à la réforme des retraites. Donc ça, c'est
il n'avait jamais dit qu'il allait revenir sur les 64 ans.
Non, mais il arrête le conclave. Il dit maintenant, il y a une circulaire, il n'y a plus rien à voir, etc. Et ce que les gens se disent, c'est qu'au fond, l'action gouvernementale ne correspond pas aux priorités du moment. Vous voyez, la priorité, c'est quand même aujourd'hui les difficultés économiques des entreprises. Vous avez vu le nombre encore de fermetures d'entreprises
actuellement. Les finances publiques aussi.
L'effondrement de l'industrie et le déficit public. Et moi, à mon avis, le deuxième grand sujet, c'est la question de l'angoisse des jeunes et de l'anxiété sur les jeunes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une enquête qui vient de paraître aujourd'hui où plus de 40% des étudiants ressentent des troubles de l'anxiété. Et comme il y a en plus un effondrement de la médecine psychiatrique, là, il y a un vrai problème. Parce que la politique, elle est d'abord faite pour préparer le futur des jeunes générations.
Oui, il ne s'attaque pas aux priorités, François Bayrou ?
Pardon ?
Il ne s'attaque pas aux priorités.
Pour le mois d'avril, il a expliqué ce qu'il voulait faire. Ce qu'il voulait faire, il l'a écrit au président du groupe. C'est en tout cas l'engagement vis-à-vis des présidents de groupe parlementaire que ça sera examiné au mois d'avril.
Priorité à l'éducation, accès aux soins, lutte contre la bureaucratie.
Oui, je me rappelle.
Simplification de la vie économique, rééquilibrage des comptes, sécurité, retraite.
Mais beaucoup. Oui.
Alors,
le mois va être chargé.
En ce qui concerne l'éducation, moi, il y a une chose qui m'intéresse, peut-être pour des raisons familiales, mais qui m'intéresse, c'est d'améliorer la formation, la pédagogie des enseignants, qui, dans le temps, était une des forces françaises et qui a énormément décliné, sur lesquelles il y a sûrement des choses à faire. En ce qui concerne la médecine, il ne veut pas révolutionner la médecine, il veut s'attaquer, et il y a des propositions, donc on va voir ce qu'elles valent, il va s'attaquer aux déserts médicaux. Les déserts médicaux, c'est une des priorités pratiques pour beaucoup de gens. C'est vrai dans les campagnes, mais il y a aussi des déserts médicaux dans les villes et beaucoup de gens qui n'ont même plus leur référent personnel. Bon, sur ce qui est le plus ambitieux et le plus ambigu aussi, je dis bien les deux, hein, ambitieux, ambigu, c'est ce qui concerne les finances publiques, parce qu'il a une approche qui est nouvelle, qui consiste à dire « j'ai demandé à chacun des ministres, et ça a été fait, et ils ont répondu, de me présenter domaine par domaine dans leur secteur de responsabilité, là où ils pensent qu'on pourrait faire des économies, là où ils pensent qu'on doit faire des priorités ». Bon, c'est nouveau comme approche. Est-ce que ça va déboucher sur quelque chose? Je n'en sais rien du tout. D'ailleurs, probablement, est-ce que François Bayrou non plus ne le sait pas? Mais en tout cas, on va voir. Bon, à la fin du mois d'avril, on saura s'il y a eu un échec ou pas sur ce sujet.
Mais ce qu'on reproche à François Bayrou, c'est finalement de surtout essayer de gagner du temps à chaque fois, de repousser à demain ce qu'il pourrait commencer à faire aujourd'hui, et de tenir jusqu'en 2027. Ça serait son pari d'aller jusqu'au bout de la fin du quinquennat Macron.
Ça serait son idéal.
C'est un peu ça qu'il fait, parce que là...
Du coup, il est assez habile.
Il remet sur le tapis de multiples sujets. Ben, on n'est plus dans ce contexte-là. Ça y est, maintenant, il n'a pas fait de déclaration de politique générale le jour où vous pouvez la faire. Il a attendu un mois avant de prendre la parole. Et maintenant, il est toujours en décalage par rapport à la...
Ça s'appelle gagner du temps.
Mais qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ils disent, attendez, les gens, ils disent, il y a la crise économique, il y a la crise sanitaire, il y a les déserts médicaux, ça, on le découvre
aujourd'hui. Il y a la crise internationale.
Il y a une crise très grave, je le répète, chez les jeunes. Franchement, hein, s'il y a une urgence, c'est là. Il y a eu les 5 ans là, du Covid. Il ne s'est rien passé. Moi, j'attendais d'un Premier ministre qui dit, et d'un président de la République qui disent « Attendez, on avait promis un bilan sur les séquelles du Covid, on va le faire et on va redresser la situation pour tous les enfants qui ont été privés d'école. » Les enseignants disent partout qu'ils ont des enfants maintenant suractifs dans les classes, très compliqués à recadrer. Les jeunes, je viens d'en parler, avec des très graves difficultés. Ça, c'est l'avenir d'un pays, vous voyez. Et donc, quand les jeunes disent « Mais finalement... quel est notre avenir dans un contexte où il y a des tas de perturbations à la fois géopolitiques, climatiques et politiques? Qu'est-ce que nous donne la vie politique française? Qu'est-ce que nous donne la vie politique française? C'est ça. On a besoin d'une autre forme de vie politique, je pense, beaucoup plus apaisée et centrée sur quelques sujets très précis, tels que ceux que je viens d'évoquer. Il y en a peut-être d'autres. Et deuxièmement, au lieu de dire on va faire des lois, de toute façon, ça sera le cafouillage à l'Assemblée.
Il dit plutôt qu'il va faire des décrets.
Oui, mais même des décrets.
Ah, les lois ont du mal à passer en ce moment.
Je pense que ce qui manque...
Les décrets, il n'y a pas...
Les lois ont du mal à passer à l'Assemblée.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Ce qui manque terriblement, c'est le travail avec les territoires, avec les collectivités territoriales. Vous voyez, des choses toutes simples et efficaces, comme réunir tous les présidents de région.
Mais il a fait quand même un acte.
Mais non, mais avec la liste des entreprises qui vont fermer et se dire cas par cas, comment est-ce qu'on empêche les entreprises de fermer?
Il a quand même fait un acte d'autorité. Parce qu'on le décrit souvent comme étant un centrisme mou, enfin c'est la caricature habituelle. Il a fait un acte d'autorité, et ça a été un des moments marquants de ces 100 jours, c'est lorsqu'il a tranché sur l'histoire de l'interdiction du port du voile dans le sport. Il a dit stop à la cacophonie entre ses ministres, et il a donné raison à la ligne dure, on va dire, celle que conduite par Retailleau et Darmanin en disant on va interdire le port du voile dans les compétitions sportives.
Oui, bah, effectivement c'était compliqué dans la mesure où...
Là c'est un acte d'autorité.
Oui, c'est un acte d'autorité sur un sujet controversé et à la fois symbolique. Bon, c'est symbolique parce que tout le monde, à propos du port de voile dans des compétitions, on dit qu'en réalité, c'est la question, est-ce qu'il y a un islamisme qui est en train d'essayer de s'infiltrer? Est-ce que c'est ce qui est la grande thèse? Est-ce que c'est les frères musulmans, etc. Et puis, il y a aussi des fédérations qui disaient, jusqu'à présent, c'est chaque fédération dans son domaine, pour son sport, qui décidait. Il y en a qui acceptaient le voile, il y en a qui le refusaient. Bon, il a pris une décision. Je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure, mais il a pris une décision, qui est pas de voile dans les compétitions.
D'ailleurs, est-ce qu'il avait vraiment le choix? Parce qu'il était sous la pression de ses deux ministres les plus importants, qui sont le ministre de l'Intérieur.
Mais visiblement, il y avait une différence entre, au fond, les ministres des sports qui regardaient ça sous l'angle sportif, justement, et les ministres régaliens qui, eux, regardaient ça sous l'angle l'ordre et pas de risque. Mais je voudrais répondre quand même à deux choses. La première, en ce qui concerne le conclave social, qui était effectivement une initiative intéressante, ça n'est pas fini. À partir du moment où il y a plusieurs syndicats, dont le premier syndicat français...
Les partenaires sociaux continuent.
Et
CFDT.
La CFDT, oui. Mais la CGC est là, mais la CFTC est là, etc. Et à partir du moment où les représentants patronaux, sauf une petite organisation, sont là aussi, ça n'est pas fini. Si par exemple, puisque c'est en réalité l'objectif principal, là, si par exemple, on arrive au bout à faire des propositions qui seraient vraiment des... progrès sur les longues carrières et la pénibilité. C'est pas la révolution qu'on met en place, je veux dire. On ne trouve pas une solution idéale pour tout. Mais c'est ce que, dans le temps, quand vous étiez au pouvoir, on appelait une avancée.
Oui, c'est bon, ça. Et au-delà de la technique.
Ça serait une avancée, puis en plus, un symbole qu'il se passe quelque chose. Bon, pour le reste, c'est vrai qu'il y a énormément de choses à faire. Je suis d'accord sur, évidemment, ce qu'on a appris à propos de l'état d'esprit, pas de l'état d'esprit, là. L'état mental des jeunes, effectivement, c'est un très gros problème. Et alors, en ce qui concerne la psychiatrie, donc pour ceux qui ont vraiment un problème spécifique, malheureusement, c'est à la fois une priorité, mais il ne faut pas qu'on se raconte d'histoire. On ne va pas improviser des psychiatres qu'on n'a pas et on ne va pas construire des services qu'on n'a pas en 30 secondes. Je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est une priorité. C'est une priorité absolue. Mais simplement, la priorité, c'est maintenant. Et les vraies réponses, ça ne peut pas être maintenant. On n'a pas les médecins et on n'a pas les services.
Mais au-delà de ça, c'est surtout donner des perspectives aux jeunes. Vous voyez, c'est ça. On a déjà une actualité surchargée de faits plus dramatiques les uns que les autres. Et qu'est-ce qu'ils disent, les jeunes ? Ils disent, on trouve de l'argent pour les armes, c'est magique. Et puis pour nos besoins fondamentaux, il n'y a pas d'argent.
Pour l'instant, on trouve
rien du tout. Bien sûr. Tel que ça apparaît, mais écoutez, 90% des Français aujourd'hui disent ça. Mais attendez, on nous a dit que c'est qu'on était en déficit, on nous a dit qu'on ne pouvait rien mettre dans l'éducation et qu'il fallait même faire des restrictions. Dans la santé, c'est quand même catastrophique, il y a un effondrement. Et puis tout d'un coup, on a besoin d'armes et là, les milliards virevoltent.
Non, mais les Français,
il n'y a pas de milliards qui virevoltent.
Non, mais on entend, on va mettre l'Europe qui met 800 milliards, on lance un emprunt. Je ne vous dis pas que c'est la réalité.
On ne sait pas d'où vient venir l'argent.
Mais attendez. Il y a deux choses, écoutez
les Français qui disent ça.
Non, les Français sont pour un effort de défense.
Oui, mais ils veulent pas payer plus d'impôts.
Non, c'est pas ça que j'ai.
Il faut bien trouver l'argent, je sais pas où.
D'abord, on ne paie autant d'impôts que dans aucun autre pays.
Bah oui.
Bon, alors donc que les Français n'aient pas envie d'impôts supplémentaires, c'est la moindre des choses, ils en paient plus que les autres.
Ils n'ont pas compris d'où venait l'argent.
C'est pas sur le plan technique.
Pour l'instant, il n'y a pas d'argent débloqué. Voilà. Il y a une réunion, vous le savez très bien, qui a lieu jeudi, dans laquelle ça va justement être examiné de près. Mais on ne peut pas dire qu'on virevolte avec des milliards.
Mais si l'Europe a lancé un plan.
Alors, puisqu'on parle de François Bayrou et de ses 100 jours, il a reçu des confrères, il s'est entretenu avec des confrères, le JDD. Et voilà ce qu'il a dit à propos de ses 100 jours, le chef du gouvernement. Si c'était facile, je ne serais pas ici. Toute ma vie, j'ai pensé que je ne pourrais exercer ces responsabilités que le jour où tous les autres auraient échoué. C'est fait, donc le dernier recours, François Bayrou.
C'est aimable pour les autres.
Dans le monde politique, personne ne vous facilite jamais la tâche.
Oui, en tout cas, moi, je peux vous dire une chose.
C'est pas aimable.
C'est que ce qu'il a dit là, qu'il a toujours été persuadé qu'il ne pouvait arriver que si rien n'était possible et qu'au fond, il était non pas le recours, mais qu'il était par nature la dernière carte ou la seule chose qu'on n'a pas essayé, au fond. Alors ça, je peux vous dire que je l'entends dire ça depuis...
C'est dramatique.
40 ans.
C'est dramatique, dit Ségolène Royal. Pourquoi c'est dramatique ?
Mais c'est pathétique de dire des choses pareilles. Quand on est Premier ministre, on n'est pas le rebut parce que les autres ont échoué. Surtout qu'il vient d'un parti qui a perdu les élections. Ils ont perdu les élections législatives, ils ont perdu les élections européennes.
Le Modem, la grande majorité, le bloc central, a perdu les élections.
Il se retrouve Premier ministre, le te dire, c'est extraordinaire, je suis Premier ministre, je vais donner le meilleur de moi-même grâce à mon expérience. Et on a l'impression d'avoir un homme inexpérimenté, c'est ça qui est étrange.
Il n'est pas inexpérimenté, mais c'est un homme qui est
décalé par rapport à l'époque.
Incontestablement, dans personnel politique que je connais quand même pas mal depuis pas mal de temps, qui est décalé par rapport aux autres et qu'il l'a toujours été. Hein.
Merci.
Décalé par rapport à l'époque aussi. Il comprend plus.
On a un policier décalé, ça sera la conclusion.
Merci Ségolène Royal, merci Alain Duhamel.